franceinter.fr.
Les aliments ultra transformés augmentent-ils le risque de cancer? Une étude sur l'alimentation de plus de 100 000 Français aujourd'hui à la une de la science.
Moi, mon hachis, c'est du travail d'orfèvre.
La purée, c'est avec de la crème fraîche et du beurre.
Comme ma...
Quelques minutes au four et c'est prêt.
Ah, ma... elle prend le temps de le faire gratiner lentement.
Oh.
Ouais, goûte.
Aussi perfectionniste que ton papa, toi.
Iram, c'est déjà fait et très bien fait.
Voilà, plat préparé par exemple, barre chocolatée, soupe minute ou encore sauce toute faite. Eh bien, quels sont les risques pour la santé des aliments ultra transformés? Avec cette étude menée donc sur plus de 100 000 Français qui montre aujourd'hui une augmentation des risques de cancer chez les consommateurs en lien avec ces produits. Une première étude qui ouvre la voie et dont on discute avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec Mathilde Touvier de l'INSERM. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes épidémiologiste et co-investigatrice de la cohorte Nutrinet Santé sur laquelle se base cette étude. Alors pour savoir vraiment de quoi on va parler, comment est-ce que vous avez défini ces plats ultra transformés dans votre étude ?
Alors on a utilisé pour cela une classification qui s'appelle la classification NOVA, qui a été initialement proposée par des collègues à l'université de Sao Paulo au Brésil et qui catégorise les produits selon leur degré de transformation, donc en partant des aliments peu transformés ou bruts, des ingrédients, des aliments transformés et puis ceux ultra transformés. Et donc dans cette dernière catégorie, on retrouve effectivement tout ce qui est les céréales petit déjeuner, les barres chocolatées, des légumes aussi, mais qui sont déjà préparés avec des sauces, des texturants, des additifs. Donc ce sont des produits qui ont subi des transformations qui souvent ont des additifs et puis aussi une qualité nutritionnelle en moyenne qui est souvent moins bonne que d'autres catégories de produits.
Et vous trouvez une augmentation de 10% de la survenue de cancer chez vos participants qui consomment 10% de ces produits en plus dans leur alimentation. Qu'est-ce que ça nous dit exactement de l'impact de ces produits sur notre santé ?
Alors, on ne peut pas encore parler d'impact parce que ça voudrait dire qu'on a réussi à faire un lien de cause à effet entre ce qu'on a observé dans leur alimentation et le risque de cancer. On n'en est pas encore là. Il s'agit d'une étude d'observation. On a regardé ce que ces personnes mangeaient au quotidien et on a vu qu'effectivement, statistiquement, on avait une association entre le fait de manger plus d'aliments ultra transformés et le fait de développer plus de cancers, notamment de cancer du sein dans cette étude.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément leur alimentation.
Ça veut dire que c'est ici la part d'aliments ultra transformés dans le total des aliments qu'ils consomment.
Mais plus on mange justement ces plats et plus on observe des risques d'avoir des maladies, des cancers en particulier.
Oui, dans cette étude-là, effectivement, la relation est linéaire. Plus on avait de parts importantes d'aliments ultra transformés, plus on développait de cancers dans cette étude.
Comment est-ce que ces 100 000 personnes vous transmettent les informations concernant leur repas ?
Alors, il s'agit de la cohorte Nutrinet Santé. Donc, les participants remplissent ce qu'on appelle des enregistrements alimentaires de 24 heures. Donc, pendant 24 heures, ils vont noter tous les aliments, les boissons, les bonbons, etc., qu'ils vont consommer dans la journée, les portions consommées également. Donc, on a un détail de plus de 3300 items alimentaires différents possibles pour chacun de ces participants. Et on va également suivre leur état de santé. Et donc, au fil des années, là, on a 8 ans de suivi, depuis le début de l'étude, certains vont développer un cancer, d'autres pas. Et donc, on va pouvoir analyser ces corrélations.
En moyenne, combien ces personnes mangent de plats transformés ou quelle proportion dans leur alimentation ?
Alors, on a une variation de consommation qui va d'environ 8% d'aliments ultra transformés dans le régime pour notre premier quart de la population. Et puis, chez ceux qui en consomment le plus, le dernier quart, on arrive autour de 32% d'aliments ultra transformés dans leur consommation.
Sur la méthodologie, justement, comment vous parvenez à faire cette corrélation ? Parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans ces cohortes, donc entre l'alimentation et ensuite, en bout de course, le cancer. Comment vous nettoyez finalement toutes les autres informations ?
Alors c'est vraiment précisément le challenge des épidémiologistes d'essayer au maximum d'isoler ce qu'on appelle des biais de confusion, d'éliminer ces biais en prenant en compte, et donc nous on appelle ça ajuster, on ajuste nos modèles statistiques sur des variables telles que la consommation d'alcool, l'activité physique, le tabagisme, le fait d'avoir des cancers déjà dans la famille. Donc tous ces facteurs-là, dont on sait qu'ils peuvent être associés d'une part au risque de cancer et d'autre part à l'alimentation, si on ne les prend pas en compte, ils risquent de brouiller complètement nos résultats. Donc on essaye du mieux possible. On a des techniques statistiques pour faire cela, pour les éliminer. Maintenant, ça reste encore une fois une étude d'observation. Donc prudence, on n'est pas sûr d'avoir totalement éliminé tous les biais de confusion.
Il y a d'autres études qui avaient été menées précédemment qui avaient permis d'associer le risque d'obésité ou l'hypertension à la consommation de ce type de plat. Pour le cancer, c'est vraiment la première fois que c'est fait ?
Oui, c'est la première fois que c'est fait. Effectivement, il y avait des études, notamment chez des enfants et puis chez des adolescents en Espagne, au Brésil, sur les dyslipidémies, donc les problèmes de trop de cholestérol, trop de triglycérides, ou bien hypertension, obésité. Mais sur le cancer, en population, comme ça, chez l'homme, c'est la première fois qu'on regardait cette relation.
Vous avez des pistes pour regarder à l'intérieur de ces plats ou dans ces produits pour expliquer cette augmentation ? Même si, bien sûr, c'est des hypothèses pour le moment.
Oui, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que là, on a une catégorisation qui est assez grossière. Hein, et évidemment, dans les aliments ultra transformés, on a vraisemblablement des produits totalement inoffensifs et puis peut-être certains composés par-ci par-là qui posent problème. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à distinguer. Parmi les pistes d'explication, on pourrait avoir donc la moins bonne qualité nutritionnelle de ces produits, plus de gras, de sucre, moins de vitamines, de fibres alimentaires. Les additifs qu'ils contiennent, certains, on a plus de 400 additifs autorisés hein, sur le marché européen, la plupart sont certainement très sûrs pour la santé, mais pour certains, certaines études animales ou sur des modèles cellulaires ont suggéré des risques potentiels, donc c'est ce qu'on veut investiguer. Et on a aussi la piste des matériaux en contact avec les aliments, oui. On entend beaucoup parler du bisphénol A notamment, donc ces aliments packagés, donc on a potentiellement ces composés-là, et puis les composés qui arrivent pendant la transformation, quand on chauffe les produits, qu'on fait du fumage, ou etc. Donc là aussi, ce sont des pistes qu'il faut creuser.
Et pour ça, il faut beaucoup de données. Vous cherchez encore des volontaires là, pour rajouter aux 100 000 personnes qui...
Absolument. On recherche vraiment des volontaires pour faire progresser la recherche sur les relations nutrition-santé. Et donc, les personnes qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur le site de l'étude Nutrinet Santé. Et il suffit de remplir des questionnaires en ligne. Un questionnaire par mois, pas plus. Hein,
ah, ça va.
Sur l'alimentation, le mode de vie, etc.
Donc, il faut noter par exemple ce qu'on mange en une journée, c'est ça ? Ça consiste
voilà, à... par exemple.
Ah, ça, oui. C'est questionnaire. Voilà, donc, résultat de cette cohorte. Et donc, ces observations pas encore de lien direct de cause à effet, mais en tout cas de fortes suspicions avec ce travail dont vous êtes l'une des investigatrices, Mathilde Touvier. Merci beaucoup à vous et Axel.
À demain. Bah oui, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un cimetière d'enfants gaulois retrouvé en Normandie sur la centaine de mètres carrés fouillés par l'INRAP à Falaise, dans le Calvados. Ce sont près de 130 squelettes qui ont été mis au jour. Une nécropole d'enfants datant de l'âge de fer où les Gaulois avaient pour habitude d'enterrer les morts n'ayant pas atteint la puberté et ce, à l'écart des adultes. Une pratique rituelle qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge, précise Vincent Carpentier qui a dirigé ces fouilles. Des bracelets, divers objets découverts sur les dépouilles confirment d'importants échanges commerciaux entre la Gaule et l'Angleterre il y a 2000 ans. Inverser le développement d'Alzheimer chez la souris, cette étude très intéressante d'un point de vue fondamental vient des États-Unis où une équipe de biologistes a réussi à endiguer le développement de la maladie donc chez des souris. Plus précisément, c'est la formation de plaques moléculaires anormales appelées plaques amyloïdes qui est considérée comme une des causes d'Alzheimer. Grâce à une enzyme spécifique, ils ont réussi à stopper la formation de ces plaques et à restaurer les fonctions cognitives des souris testées. C'est une grande étape sur l'animal. Qu'en pensez-vous, Yves Agide ? Parce qu'il y a beaucoup d'études sur Alzheimer en permanence.
Oui, il y a beaucoup d'études depuis maintenant 30 ans, surtout depuis 10 ans, avec quand même des échecs thérapeutiques considérables. Aucun médicament vraiment original trouvé au cours des 10 ans sur des milliers et des milliers d'essais. Alors, cette étude est très intéressante, mais il y en a d'autres. Et elle pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est trouvé chez la souris. L'expérience montre que ce qui est trouvé chez la souris ne se confirme pas toujours chez l'homme. Bon, la deuxième idée, c'est que les plaques séniles dont vous parlez, la protéine bêta-amyloïde, c'est peut-être quelque chose qui est causal, c'est une hypothèse. Mmh. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que ces déchets, en quelque sorte, du métabolisme du neurone, sont en fait la partie terminale et que c'est la conséquence et non pas la cause. Mais enfin, de toute façon, ça me paraît quand même très intéressant. Voilà. Je regarde ça de plus près.
Et il faut continuer les recherches, elle vient juste de paraître. Et puis on termine en image avec la galaxie Andromède, la plus proche de la Voie lactée, dont on apprend qu'elle serait née d'une grande collision entre deux galaxies plus petites il y a seulement 3 milliards d'années. Oui seulement, puisqu'à cette époque, la Voie lactée, la nôtre et la Terre étaient déjà formées. C'est grâce à des modélisations menées par des chercheurs français et chinois dans le plus grand supercalculateur français que cette estimation était possible. Une reconstruction en vidéo de cette collision est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré.